Mais comme il nous reste un peu de temps, moi je suis toujours intéressé un peu par l'histoire du scepticisme et de la zététique. Et je voulais quand même. Parce que je pense qu'il y a. Justement, il y a plein de jeunes qui débarquent et nous, on commence à être les vieux de la vieille. Sauf Jérémy, c'est le jeune du
groupe. Les anciens.
Et je pense que. Moi, je suis plutôt pour couvrir des bases aussi. Enfin, t'es qui toi en fait, Richard? D'où tu viens? Comment t'es devenu un sceptique et tout ça?
Ah, ça a commencé. Oulala, ça devient très intime, ça devient chaud, chers amis, ça devient chaud. Je n'ai pas couché avec Jean-Michel Abrassard. Je le jure. Je suis très très méfiant sur les histoires personnelles, tu sais, parce qu'on a, tendance à faire sa propre géographie, à se raconter les meilleurs moments. Non, moi c'est une succession de pure loose, moi, tu vois. Non, qu'est-ce que je peux raconter qui ne fasse pas trop honte? Que, ouais, depuis petit, j'avais non, moi je suis d'un milieu populaire, on va dire. Populaire, petite condition, personne n'a passé le bac chez moi, je suis le premier, quoi. Alors la thèse, c'est même pas la peine d'en parler, quoi. Et puis par contre il y avait des bouquins un peu chez moi, quelques bouquins pas très très bons, mais il y avait des bouquins, et donc j'ai pu avoir cet accès là assez rapidement. Et puis je me suis vite ennuyé à l'école, j'avais la facilité à l'école et je me suis emmerdé comme un rat mort, et donc j'ai commencé à farfouiller à côté, et j'avoue avoir une tendresse pour l'ésotérisme très tôt. 9, 10 ans, 11 ans, 12 ans, je tripais. Et puis, en fait, la grosse brèche sceptique, ça a vraiment été le livre d'Henri Brock, le petit bouquin, Le Paranormal, là, qui est édité au Seuil maintenant. Parce que j'avais adhéré à Lyle Watson, Histoire naturelle du surnaturel, qui est un ouvrage des années 70, des années 70, là, qui était J'avais complètement gobé l'histoire des cultes aux champignons hallucinogènes, enfin, il y a un passage là-dessus. Et puis je lis le bouquin d'Henri, et puis il déconstruit ça brillamment avec des outils que j'avais déjà en tête et que j'avais pas mobilisés, quoi. Je me dis, mais quel abruti, quoi. Comment? Mais vraiment. Et d'un seul coup, tout s'est lézardé. Je me suis rendu compte que tout se ressemblait un peu. Vers 17, 18 ans, 19 ans, hein. Bon, moi je faisais des études de physique-chimie en même temps, je faisais un petit cursus de philo en même temps, j'avançais dedans, j'ai failli partir vers de la météorologie, figurez-vous, la physico-chimie des nuages, mais parce que le mot était joli, quoi. Et puis il y avait didactique des sciences, je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa, on peut faire des choses, transfert de connaissances. Je voulais déjà travailler un peu sur les croyances, ça me plaisait. Puis j'ai eu, dernier détail que je peux vous raconter, en l'an 2000, j'ai décidé de, après mon DEA, là, mon Master 2, j'ai décidé d'aller voir par mes propres moyens si effectivement dans les gros clichés coloniaux, je me disais, tiens, en Afrique noire, est-ce qu'ils n'ont pas une représentation de la réalité qui est différente? Et donc j'ai été travailler sur un projet humanitaire, grand mythe moderne que l'humanitaire, d'ailleurs on pourrait faire un épisode entier là-dessus. Et pendant 2 ans j'étais là-bas, j'en profitais pour regarder ça, et je me suis rendu compte que le niveau de croyance, si on peut dire, en France et là-bas, c'est pas très différent, quoi. Pour là où j'étais, en Guinée-Conakry, c'était pas très différent. Les formes sont un peu différentes, les rapports avec les religions installées un peu différents, mais en soi, le nombre de croyants, c'était pas inférieur chez nous, hein. Donc je me suis dit, bah, plutôt que de faire le petit blanc, le petit Tintin qui va là-bas, j'ai qu'à prendre mon terrain, quoi. Le terrain chez moi, je connais, j'ai la culture commune, les pièges sémantiques, je tombe dans les mêmes, donc c'est beaucoup plus pratique. Et donc j'ai été voir Henri Brock, je dis, bon, salut, c'est bien ce que vous faites, je peux faire quelque chose dedans, est-ce que je peux faire ma thèse avec vous? Et puis il m'a dit, il y a eu des problèmes de rattachement, assez compliqués. C'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier. C'est à la même époque où j'ai commencé à frayer un peu avec les gens qui parlaient de zététique déjà sur Grenoble, et puis qu'avec les copains qui s'appelaient, dans un groupe qui s'appelait pas encore Observatoire Zététique, on a commencé à bien rigoler, à s'entendre sur une sorte de démarche éthique, d'être doux, sympa. Et en 2003, on s'est regroupé. Et d'ailleurs, le terme observatoire zététique, au départ, c'est rigolo, parce que moi, mon rêve, c'était toujours de faire un labo comme celui d'Henri, quoi, mais plus large, mais d'arriver à monter un labo. C'est ce qu'on va peut-être réussir à faire avant que je sois mort, j'espère. Parce que le labo de zététique a fermé cette année, quoi. Il n'y a pas pu avoir moyen de monter une suite. Et au départ, mon projet, c'était de monter je voulais l'appeler l'observatoire zététique, c'était le terme, quoi. Puis quand on cherchait un nom d'assos, ils m'ont dit, ah, il est bien ce nom. J'ai dit, bon, d'accord. Et puis c'est devenu le nom de. Et je crois que c'est bien comme ça, en fait. Je trouve ça plutôt bien.
Mais donc, oui, non, mais juste vraiment pour une optique historique, je veux dire, il y a vraiment une émulation des gens, des copains, quoi, avec. Et qui étaient déjà dans ce groupe à ce moment, au moment de la création de l'OZ. Il y avait Florent, il y avait.
Oui, il y avait déjà Florent Martin. Il me semble, à la création de l'OZ, il me semble que les adhésions, les premières, c'était. Oui, c'était Nicolas Vivant, Florent Martin. Il devait y avoir déjà Jean-Louis Racard, que vous connaissez peut-être. Il y avait. Oui, ça doit être les personnes qui restent encore là. J'espère pas oublier un personnage central du démarrage, mais non, je crois que c'était. Il y avait un gars qui s'appelait Stanislas, qui s'appelle toujours. Salut Stanislas. Stanislas Sanchak, ouais. Un mec de Lyon, qui est remarquable, qui est un super bon pote, qui est un peu éloigné maintenant, mais qui avait monté un cours d'esprit critique c'était où ? À Lyon, à. Je crois que c'était à l'INSA, à l'École nationale d'ingénieurs là-bas, enfin le truc d'ingénieur à Lyon. Et voilà, c'était cette bande-là, quoi, une bande plutôt de mecs.
On était vers les débuts des années 2000, non ?
Ouais, c'est ça, ouais, 2001, 2002, non, 2002. Moi, je suis rentré en 2002, j'avais déjà un ou deux contacts avec eux. 2002, je me suis dit, bon, bah, ça y est, je suis rentré, je vais attaquer ma thèse, c'est un peu compliqué à monter administrativement. Tiens, vous êtes là, salut. Il venait d'inviter Henri Brock, je me suis pointé là-bas, j'avais déjà. Et puis c'est comme ça, on s'est dit, bah, regroupons-nous dans des bars, si possible des bars pas trop chers, comme ça fait pas un tri à l'argent, surtout pour faire venir des étudiants. C'est important ça pour les associations, faut vraiment. Si on veut monter des associations un peu comme ça, il faut bien se rendre compte que si on fait ça dans des. Bon, j'ai répété des milliards de fois pour ceux qui me connaissent, mais si on fait ça dans des restaurants un peu huppés, eh ben ouais, on aura les grands bourgeois, les aristos, quoi. Mais les étudiants, ils crèvent la faim, ils n'ont pas beaucoup de sous. Et il faut des bières à 2 euros, quoi, ou à 1,50 €. Et là, ils sont là, quoi. Et ouais, Skeptics in the Pub, je sais pas comment trop ça marche, je sais pas comment vraiment ça marche, j'ai pas vu, mais j'imagine que c'est ça.
Ah, c'est gratuit, voilà. Ils payent leur consommation, c'est un bar classique, mais bon, c'est gratuit, quoi.
Et voilà, je trouve que même les vieux sceptiques installés devraient payer les bières aux jeunes étudiants fauchés qui viennent. Voilà. Ben oui, parce que j'étais content, moi, quand j'étais fauché, que des vieux me payent mes bières. Il faut y penser à ça. Faut penser à. Maintenant, quand on fait des conférences à l'université de Grenoble, là, on s'arrange pour que l'université mette des sous pour qu'on paye des casse-croûtes pour que les gens, quand ils veulent suivre une conf qui est à 20h ou 19h, ce ne soit pas la faim qui les empêche de venir. Et donc, le casse-croûte est subventionné.
Sérieux ?
Et on leur met. C'est prix libre. On leur dit, ah, prix libre. Et la cagnotte qu'on génère, eh ben, elle ira dans une. Pour vous dire, le dernier coup qu'on a fait, c'est un cycle sur la censure. Donc les casse-croûtes étaient donc libres, les gens qui étaient fauchés pouvaient manger, quoi. Et ceux qui avaient des sous, ils mettaient dans la cagnotte, et la cagnotte a servi à envoyer un don à Muktomona. Vous voyez Muktomona, ce réseau de blogueurs free thinkers au Bangladesh, dont trois membres se sont fait dessouder en janvier, février, mars, ce qui nous avait bouleversé.
C'est vachement sympa comme idée.
Parce qu'en fait, maintenant je dédicace souvent mes cours quand il y a des drames comme ça, je dis voilà, des mecs comme Avijit Roy ou des gens comme ça, en fait ils racontent la moitié de ce que je raconte en cours et ils se font macheter dans la rue, quoi. Et ils restent sur le carreau, leurs femmes aussi, ils se font cribler de balles. Et moi, je suis pépère dans un pays protégé, quoi. Je raconte pire, et au plus dur, au plus technique, et puis j'ai pas de problème. Il faut se rappeler que pas loin, quoi. Pas loin, il y a des gens qui meurent de ça. Il y a des gens qui se battaient en Inde contre des lois, je pense à Dabolkar, qui se battaient contre les lois qui régissaient le statut des Dalits, les intouchables. Et il s'est fait dessouder, ce gars. Enfin, il devrait y avoir une sorte d'international sceptique qui vienne en aide, un peu comme avait pu naître un soutien qui avait été fait à Jan Plimer. Vous vous rappelez peut-être ce gars qui avait été emmerdé par des créationnistes en Australie. Je suis en train de plus en plus réfléchir à ça. D'ailleurs, je le dis, tiens, créer une sorte de, comme il y a pu avoir un Secours Rouge qui servait de soutien juridique pour les communistes ou les anarchistes qui pouvaient avoir des problèmes, créer une sorte de secours, je sais pas, noir, tu vois, pour les progressistes, les antisexistes, les athéistes ou les agnostiques de certains pays, les libres penseurs qui ont des ennuis, des vrais ennuis. Est-ce qu'on pourrait pas, quand ils sont obligés de partir, quitter leur pays, quand ils ont une fatwa sur le dos, quand une taslima nasrine doit bouger, ou est-ce qu'on pourrait pas créer un réseau de pioles, ne serait-ce que de pioles, tu vois, ne serait-ce que d'inscription à la fac un peu privilégiée pour des étudiants qui sont obligés de partir, un petit peu de soutien financier. Je vous dis ça en l'air, quoi. J'y pense, que je me dis, mais pour certains, la moitié de ce qu'on raconte, c'est faire un podcast comme vous faites maintenant, là, Mais il y a des pays où vous seriez condamné à mort. Ah, il faut bien s'en rendre compte. Quoi. Donc là, on est bien pépère, tranquille, mais ouais, ça peut coûter cher, vraiment cher. Alors, je me dis, ben, ouais, respect et soutien à ceux qui se battent dans des contextes qui sont beaucoup plus difficiles que les nôtres.
D'accord. Ouais, et puis continue un peu l'histoire. Je veux dire, tu as fini ta thèse en combien, 2006
2007, ouais, c'est ça, 2007. 2007, ouais, c'était, alors moi, c'était chouette. C'était que, bon, Henri m'avait dit... À la fin, il m'avait dit, tu sais... Ah, mais vous voulez toute l'histoire. Il y a vraiment des anecdotes marrantes parce que à un moment donné, j'avais un autre co-directeur de thèse et ça s'est avéré être un type que j'ai trouvé détestable sur le plan humain. Et donc, comme je n'avais pas de financement, moi, j'ai eu le luxe de lui dire, restons-en là. Voilà. Mais de fait, c'était lui mon rattachement officiel. Je ne pouvais pas être chez Henri, parce qu'Henri, son labo, c'était un labo de physique. Et je ne suis pas physicien, moi. J'étais en didactique des sciences et je n'étais pas dans la même catégorie universitaire. Et un jour, je faisais une présentation dans un squat anarchiste sur le matérialisme et le scepticisme. Et j'ai un copain qui a ramené son père. Et son père était un directeur de labo, d'un labo de médecine. Et c'est lui qui a dit, mais c'est sympa ce qu'il fait. Il est où? Il est en thèse. Ah non, mais avec qui? En ce moment, il n'a même plus de labo. Il y a Nice là-bas de loin, mais il ne peut pas être attaché. Et ce gars a dit, qu'ils viennent dans le mien. Et je me suis retrouvé attaché à un labo qui s'appelle Hypoxyphysiopathologie, qui est attenant au laboratoire du sommeil. Donc, ce qui m'a permis de découvrir les aspects du sommeil. Je connais maintenant assez bien certaines paralysies du sommeil, par exemple, à cause de ça, grâce à ça. Et donc, c'est un concours de circonstances qui a fait que j'ai pu me rattacher. Et en 2007, la joie que j'ai eue, c'était de pouvoir construire. Là, je vous disais, Henri m'avait dit, tu sais, une thèse, t'en feras qu'une dans ta vie, alors fais-toi plaisir, quoi. Mmh. Et donc, je me suis fait plaisir. J'ai composé un jury. J'ai essayé de prendre les pires snipers que je connaissais. Donc, Guillaume Lecointre a accepté d'être mon rapporteur. Jean Bricmont aussi avait été mon rapporteur. Mmh. Et d'ailleurs, Guillaume Lecointre, il n'avait pas été de main morte dans son rapport. Il m'avait massacré. Il m'a massacré dans mon rapport. Ce que j'ai trouvé de bonne... Maintenant, je trouve ça de bonne guerre. Mais à l'époque, j'étais très vexé. Donc, je m'étais mis en mode combat pour la thèse. Je me disais, lui, je vais le défoncer. En plus, ses critiques, elles sont fausses. Donc, je vais le massacrer. Je suis arrivé un peu fâché. Et il a été une crème pendant mon jury. Donc, je ne pouvais pas le défoncer. Il était tout gentil et tout sympa. Ce qui fait qu'un peu la thèse, c'est un peu une mascarade, faut bien s'en rendre compte. Mais on ne le sait pas avant, on le sait après, tu vois. Mais bon, c'était chouette, quoi. J'avais eu des gens respectables dont je respecte la pensée, quoi. Les Lecointre, toute cette bande de gens qui se battent à produire des bouquins qui sont... Je parle de matériologiques, les éditions matériologiques, dont Zilberstein, Charbonnat, Lecointre sont des membres, Brosseau et Baudouin, Cyril Baudouin, Olivier Brosseau, des gens comme ça. Soutenez les éditions matériologiques, ils produisent un contenu qui est hyper rare, certes parfois un peu technique, mais ils se battent dans une cave aussi, ils donnent tout, ces gens, et sans ce travail, moi je fais que remâcher leur travail en gros, c'est vraiment géant, il faut soutenir, ça, ce sont des gens qui galèrent bien. Et voilà, j'ai eu la chance d'avoir ces gens-là derrière moi, ce qui m'a permis d'avoir des ponts vers l'AFIS, ça faisait une sorte de paysage en France. J'ai découvert après, c'était assez limité. Je n'y crois pas trop à une internationale du scepticisme parce que je vois qu'il y a à l'AFIS, ils sont plutôt technolâtres. Il y a une tendance un peu technolâtre, un peu étonnante. La libre pensée, ils sont très très anciens. L'union rationaliste, ils sont encore plus anciens. c'est dur de. Mais là, le paysage change. Il faut bien l'admettre, le paysage change, quoi. Et vous, avec votre podcast, là, vous participez de ce changement. Et Internet change un peu la donne. Alors, ça va être très éclaté. Je ne sais pas si un jour on pourra. Mesdames et messieurs, il y a un chat noir qui est en train de rentrer dans la pièce en direct. Un chat noir maudit.
C'est mon chat, ouais. c'est vrai que créer des ouais, même à la grande époque, le PsyCop, ils avaient essayé de fédérer pas mal de choses. Hein, mais je veux dire, au comité para, ça a été, ils supportaient pas que le PsyCop ait voulu. Ils avaient l'impression parce que c'était l'organisation américaine. Et que eux avaient la précédence puisqu'ils étaient plus anciens. On voit que en fait fédérer les gens c'est extrêmement difficile et que parfois les causes du rejet de fédération ou de partenariat etc. sont enfin, des conflits d'ego assez débiles en fait.
Mais il faut fédérer sur des projets, je pense. Il faut fédérer sur des objectifs, quoi. Je trouve que l'objectif d'incruster dans les contenus d'enseignement du scepticisme. C'est un beau projet, quoi. C'est juste un projet pour se réunir et discuter. Oui, un projet, ça peut être un journal, par exemple, ça peut être un Skeptic Magazine ou des trucs comme ça. C'est effectivement. Voilà, je pense que sans projet, c'est difficile de créer une internationale. Le projet, ça pourrait être qu'une communauté sceptique européenne ou francophone, mettons. L'objectif, ça pourrait être du soutien pour des sceptiques dans des pays où c'est vachement plus difficile de le faire. Mmh. J'ai l'impression que sans projet, les gens vont préférer regarder leur petite guéguerre plutôt que de voir un projet qui les subsume. Quoi. C'est bien le problème, c'est que souvent les projets, l'ego des gens prime d'abord. C'est bien ça le drame. Mmh. On le voit dans tous les milieux.
Ouais, c'est clair. Et alors, juste comme on arrive tout doucement à la fin, Donc après ta thèse, t'as créé le Cortex, ça c'était quand
j'étais au Japon. Ah, on a co-créé le Cortex, ouais.
Ça c'était vers 2000...
Guy Maître-Viron, Denis Carotti, Guy Maître-Viron qui est à Montpellier, Denis Carotti, Marseille, et Nicolas Gaillard, éducateur spécialisé, qui se consacre maintenant à l'éducation populaire, notamment sur de l'esprit critique, il a quitté son boulot pour ça, quoi. Mmh. Nicolas Gaillard, 4 au départ. Donc on a co-monté ça. Mais après des années de vache maigre, c'est-à-dire que j'étais vacataire à l'université, je gagnais 3 clopinettes, j'étais content que des anciens me payent des coups quand j'allais au bar avec eux, parce que c'était des vaches maigres. Est-ce que l'objectif, c'est que ce ne soit plus le cas pour les prochains, quoi.
Et ça, c'était vers 2010, alors?
Oui, la création, c'était fin 2010. On s'est dit, bon, allez maintenant, vu que ça n'existe pas, et puis qu'on attend...
C'est toujours marrant, les archives, parce que tu as été dans les premiers que j'ai interviewés sur podcast, il y a maintenant donc 6 ans, je crois qu'on est encore... En 2008-2009, je t'ai interviewé et tu étais en train de lancer l'idée. Ouais, juste l'idée du Cortex. Les gens qui vont dans le
monde. Je dis comme ça, Ah, je réécouterais ça.
Bon, le son était mauvais parce qu'à l'époque, mon équipement n'était pas bon. Mais... Ouais, non, c'était vraiment marrant. Hein. Maintenant, tu vois, on a l'histoire en marche sur le podcast.
Donc, c'est chouette. En fait, c'est une bonne leçon. En fait, si on veut un truc, il va falloir le faire, quoi. Si on attend.
C'est souvent comme ça, ouais.
On peut attendre longtemps, hein.
Écoute, c'est la même chose pour moi, le podcast,
c'est
le podcast.
C'est génial. 6 ans, 300 émissions, vous avez.
Ouais, on a dépassé les 300. Ouais.
J'en ai écouté 50, moi, c'est la loose. je rattrape ça tout de suite.
Ça tient là pour des heures et des heures.
Mais c'est bien, hein. Enfin, vraiment, la qualité est bonne, quoi. Et puis le ton est doux, hein. J'ai même. Je rigolais l'autre jour, j'écoutais l'émission sur les mèmes avec Sylvain Magne. Vous parliez de la petite ferme de Suzanne Blackmore et ça me faisait marrer. Ça rend les choses humaines, quoi. Je trouve ça sympa, moi.
Souvent, mais c'est pas qu'on met des visages derrière les gens, parce qu'on est en audio, mais on met des personnalités. Enfin, on humanise, quoi, des gens qui. Sinon, on les connaît sous forme de livres très abstraits ou d'articles dans des revues qui sont très arides. Et non, en fait, il y a des gens derrière tout ça qui existent pour de vrai, qui ont des femmes, des enfants, ou qui vont se brûler la gueule, je sais pas.
On comptait faire un de ces 4 des assises de la pensée critique pour fêter la naissance de la structure fédérative de recherche. Ce sera trop tôt pour ça cette année, je pense, mais l'année prochaine, on fera peut-être ça. Il faudra que vous veniez. Mm-hmm. Vous ferez 1000 podcasts pendant 2 jours. qu'on pense à ça. Il nous faudrait on va jouer sur le fait de prendre une personne un peu centrale, quelqu'un qui on sait qui drainerait un peu les foules. On aurait bien aimé demander à Noam Chomsky de venir, mais là vraiment ça va être compliqué de le faire venir. Il bouge déjà jamais. Jean Bricmont, il. Ah bah ouais, ça a été. Non, mais ce type est droit. Hein. Moi, je trouve son raisonnement. Alors, je le trouve pas forcément très stratégique, mais je trouve qu'il raisonne droit. Et je commence à le connaître depuis un moment. Les accusations qui lui sont faites. À moins qu'il change en cours de route, là, moi, je l'ai encore vu récemment. Je vois rien de malsain. Je trouve. Les attaques sont assez infondées à son propos. Hein. Par contre, il est quand même pas bien malin. Jean, tu n'es pas bien malin. Parce que, bon, il n'écoute pas, mais. Parce que des fois, quand même, tu mets. Putain, il y aurait des manières de se faire un peu plus stratégique, quoi. Bilan après nous, on a des ennuis. À l'université, on nous a traités de. Ah, vous rendez compte, vous êtes un peu des salauds, parce que vous faites venir quelqu'un qui laisse la liberté d'expression aux négationnistes, quoi. Mais en même temps, tout ce que tu dis sur les lois mémorielles, c'est vrai. D'avoir des lois qui sclérosent une discipline scientifique, c'est juste improbable, quoi. Et que la liberté d'expression, soit elle est absolue, soit il n'y en a plus. Mmh. Et donc oui, moi aussi ça m'écœure hein, d'écouter Forisson et d'écouter Garaudy, Bardèche, tous ces gens-là. Mais c'est le seul moyen d'en faire un débat public et de décortiquer ça et de montrer, de baisser leur culotte à ces gens. Baisser la culotte de leur théorie, montrer qu'il n'y a rien dedans. Quoi. Mmh. Alors que si on peut pas le faire, c'est ce qu'il défend, Jean. Laissons-le tranquille, ce pauvre Jean. Je le trouve correct. Son bouquin sur la liberté d'expression est limpide. Moi, je cherche des fautes dedans, j'en trouve pas. Donc, si quelqu'un trouve une erreur dedans, rationnelle, je prends. Hein. Je reconnaîtrai mon... On le maltraite un peu, lui. Je comprends pas pourquoi. Je trouve que c'est un peu facile.
Moi, je sais pas. De toute façon, je suis d'accord avec le fait qu'il communique assez mal. Hein. Mais, enfin, voilà, pour pas dire très mal, qu'il y a un problème de... Voilà, son image, quoi, hein, plus que de fond. Mais oui, mais je pense que finalement, c'est parce que son discours est assez complexe et élaboré, comme beaucoup de gens, quoi. Je veux dire, et pour vraiment savoir ce qu'il raconte, comprendre ce qu'il raconte, il faut le lire attentivement. Et c'est toujours plus facile que d'aller cliquer sur 2-3 liens. On va t'expliquer que Jean Bricon, c'est un gros con, et puis voilà, quoi. C'est la propagation de l'information sur Internet, quoi.
Mais en tout cas, chez les sceptiques, ça ne devrait pas poser problème. On se contente pas, normalement, de 3 pauvres clics. Oh. On lit. Non ?
Écoute, c'est ce qu'on essaye d'enseigner sur le groupe, mais ça fait beaucoup de débats, effectivement, quand il y a eu votre conférence Cortex où il était invité, il y a des gens qui étaient vraiment très offusqués, et puis d'autres qui se disaient, c'est pas normal que vous soyez offusqués. Enfin, bon, c'est des occasions pédagogiques aussi, hein, mais on voit que ça divise.
Il faut qu'ils regardent, on a filmé ça.
Oui, ouais, bah, on l'a eu, hein, l'info. Mais je pense que ça montre bien que dans le public sceptique qui fréquente le lieu de rencontre sceptique, hein, comme le groupe, il y a tout un continuum. Il y a des gens qui découvrent, il y a des gens qui ne connaissent pas encore bien les outils ou qui sont plus antitenants mais qui ne sont pas vraiment sceptiques. Enfin, il y a vraiment de tout. Et donc, évidemment, certaines personnes ont plus de visibilité dans les débats que d'autres et ce n'est pas forcément les plus nuancés ou les plus aguerris, évidemment. Donc, ça crée vite des polémiques, mais bon, on essaie toujours d'intervenir et d'en faire des occasions pédagogiques. Mais bon, ce n'est pas toujours facile, mais je pense qu'on y arrive quand même assez bien à certains moments, quoi.
Oui, moi, il y a une autre chose que je voulais juste soulever. C'est vrai qu'il y a, ces dernières années, il y a Chris French, là, du côté britannique, qui essaye de créer des cours, mais de psychologie anomalistique, hein, vraiment des cours sur le paranormal. Et, sur l'étude scientifique du paranormal, qui ne sont pas des cours de zététique, quoi. Enfin, c'est juste essayer de présenter à des élèves. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant. En Angleterre, ils essayent de, je sais pas où ça en est à l'heure actuelle, mais de faire des E-level, donc un niveau bac en fait, hein, qui aurait un bac psychologie anomalistique. Je me dis, si avec ça, on se reviendrait fou. Moi j'aurais été fou si j'avais eu des cours sur le paranormal. Mais je trouve ça assez intéressant. Et parfois, évidemment, dans le meilleur des mondes, je dirais il faudrait les deux, quoi. Il faut des cours de zététique dans les unifs et il faut des cours de psychologie anomalistique. En tout cas, en fac de psycho, en Europe, j'en ai pas encore vu, quoi. Il y a en Angleterre parce qu'il y a Chris Frey qui est derrière. Mais je me demande souvent, c'est juste une réflexion comme ça, mais si je devais choisir entre les deux, je serais bien normal. J'aime bien l'idée de la psychologie anomalistique, dire on va. Parce que c'est le fameux problème que tu évoquais, quoi, que le paranormal, c'est des sujets que les universitaires ne touchent pas, quoi. Ou qui sont un peu tabous. Mais si
en fait. Pas tabou, non, juste pour dénigrer, quoi. Oui, enfin, c'est du matériel vil, comme ils disent. Bon.
Ouais, c'est. C'est pas des pas sujets tabou, légitimes, quoi. Mais si tu vois, si t'imagines si dans les facs, bon, en tout cas en fac de psycho, parce qu'on aurait de la psychologie anomalistique, si on avait un cours que les élèves pourraient option, que les élèves pourraient prendre, on dirait voilà l'état de l'art sur ce qu'on sait sur le paranormal d'un point de vue psychologique. Ça serait de l'esprit critique, mais sans un packaging zététique, quoi, finalement. Enfin, je sais pas comment le dire. Mais moi, c'est quelque chose qui me botterait bien aussi, quoi. En parallèle, idéalement, enfin, on aura nié. Enfin, je sais pas. Je sais pas si c'est quelque chose auquel tu as déjà réfléchi, toi, mais ou si c'est quelque chose qui t'interpelle. Des cours vraiment axés sur le paranormal, quoi, dont ce serait le sujet, quoi, sans vraiment avoir une motivation d'enseigner la pensée critique, juste dire on va exposer l'état de la littérature, quoi.
Ouais, mais en parapsychologie, ça pourrait vraiment se faire, mais c'est très long, hein, comme travail. Il y a tellement de littérature un peu grise là. Ah, farfouiller, les fois on a voulu d'ailleurs, même avec l'Observatoire Zététique, je me rappelle, vouloir retester des protocoles, monter, bâtir avec l'Institut Métapsychique International des protocoles. On s'est fait ensevelir par. Oui, vous ne pouvez pas faire un protocole sans avoir relu les 843 papiers jaunis de Joseph Bankrein. Voilà. C'est du plein temps, quoi. C'est du plein temps. Je ne sais pas si c'est. En termes de transformation sociale, je dirais. Il y a une question, je vois, qui vient souvent, on me raconte souvent que la question vient sur Facebook notamment, est-ce qu'il y a le scepticisme ou la zététique, il y a un programme politique derrière. Mais c'est évident, en fait. On vise une transformation sociale basée sur le raisonnement, quoi. On vise un élargissement du champ des possibles pour des gens qui, avant, n'avaient pas le choix. On leur disait que ça, c'était à cause de ça. Maintenant, on leur montre que c'est un peu plus compliqué et qu'il y a plein d'autres formes différentes et qu'il y en a qui marchent mieux que d'autres, qui existent plus que d'autres. Voilà, il y a plusieurs hypothèses. Faites votre choix maintenant. Mais n'empêche, vous savez que le niveau de preuve est comme ci, comme ça. C'est un élargissement du choix, une contestation des arguments d'autorité. Oui, c'est éminemment progressiste. Bien sûr que c'est politique, puisqu'on vise à une amélioration de notre société par la réflexion. C'est éminemment politique. Mais ce n'est pas lié à un parti. Je pense qu'il y a des gens de tout parti qui pensent comme ça. Mmh. Mais c'est vrai que si on regarde de près, ceux qui ont le plus défendu ça, c'est vrai que c'est dans les courants anarchistes ou libertaires qu'on retrouve cette tendance-là. Les écoles de Francisco Ferrer en Espagne, les écoles anarchistes dans les années 1890 au Brésil, des gens qui ont tenté de s'abstraire de systèmes hiérarchiques dominants. Pourquoi je vous dis ça? Je ne sais plus pourquoi je vous dis ça. C'était quoi le lien? Parce que oui, parce que pour revenir à ta proposition de Chris French et des choses de psychologie anomalistique, c'est que est-ce prioritaire, tu vois? Mais je trouve ça hyper intéressant. Je ne dis pas qu'il n'y a que la priorité qui doit primer et tout. Si j'ai le choix, en tout cas, moi, entre. Si je veux rentrer dans la parapsychologie, je sais que c'est ma vie que je vais y mettre. Tu vois, je n'ai pas le choix. C'est-à-dire que c'est 10 ans de travail sur la précognition, tu vois, puis 10 ans de travail sur la médiumnité, puis 10 ans de travail sur la psychokinèse. Bon, c'est ça que j'ai envie, ou est-ce que c'est ça, c'est ce que j'ai envie de farfouiller d'autres thèmes, quoi. C'est un choix que je vais pas faire, je crois. C'est trop coûteux.
C'est pas mal ça, parce que je trouve que ça met justement le point, le doigt sur ce que je perçois être ta vision de la zététique ce que moi je fais, quoi, tu vois, j'ai tendance à être plutôt dans le choix de dire, enfin, je sais même plus si j'appelle ça de la zététique maintenant ou même du scepticisme, mais moi ce qui m'a toujours intéressé c'était l'étude scientifique du paranormal, quoi. Et c'est vrai que souvent Jérémy rebondit là-dessus en disant les sceptiques s'intéressent plus au paranormal. Je fais un peu bon, c'est vrai que sur le podcast j'ai tendance à maintenir ce sujet-là parce que c'est celui qui m'a toujours moins intéressé, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, je trouve que ça m'a jamais semblé évident que la zététique, c'était un programme de changement social. Maintenant, je l'entends de plus en plus. Enfin, je l'entends. Parce que
bon,
c'est
moi qui le dis, hein. Mes collègues aussi au Cortex, ils pensent ça. Hein. On est progressistes sur le plan des valeurs. On veut élargir le champ des possibles. C'est zététique, si vous voulez, que de regarder dans quelle mesure le genre est construit. Parce que si on se rend compte que le genre est construit dans une grande partie, eh ben, ça veut dire qu'il n'y a pas de prédéfinition de nos rôles. C'est-à-dire que d'un seul coup, nos choix sont plus larges. Bon, voilà, c'est, pour moi, c'est ça le programme politique, en gros. Élargir le champ des possibles pour tous les individus, quoi. Qu'ils soient le moins déterminés, qu'ils ne soient pas déterminés par l'homme et la femme dans une ordination transcendante, édictée par Dieu dans un texte sacré, qu'on conteste ce genre de trucs. Mais si vous aviez le temps, moi je voulais vous retourner la question, mais vous êtes temps,
j'ai encore du temps. On a encore 10 minutes plus loin, avant de te voir parler.
Moi ce qui m'intéressait c'était aussi, bah, là vous posiez la question quel était mon parcours, mais est-ce qu'on vous a déjà posé la question à vous dans votre podcast? Vous avez déjà répondu?
Bon, moi j'ai beaucoup posé dans mon podcast, mais de manière générale et spécifique, mais Jérémy c'est différent, je pense.
Les grands virages, quels sont les grands virages? Qu'est-ce qui t'a amené à penser ce que tu penses? C'était la question que Wardine aimait bien poser.
Moi je dirais que... Je pense à un grand virage, ça a été pendant mes études de psycho. Je pense que j'étais aussi intéressé par la psychanalyse à la base et par la philo en général. Et puis en ayant plein de cours de psycho, parce que j'étais dans une école où 90% des profs étaient d'orientation psychanalytique, bah, je me suis rendu compte assez vite qu'il n'y avait pas beaucoup de bases objectives, qu'il y avait plein de théories qui avaient l'air de tomber du ciel, que les profs ne savaient pas répondre aux questions, ils ne savaient pas expliquer pourquoi on devait penser comme ça ou comme ça. Enfin, ça ne m'a pas convaincu. Et puis, c'est comme ça que j'ai été voir ailleurs. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres approches qui étaient beaucoup plus scientifiques, où il y avait des arguments derrière, et pas des trucs comme ça très idéologiques ou très arbitraires. Et que ces gens ne savaient pas défendre leur propre point de vue ou les idées qu'ils mettaient en avant. Et donc voilà, comme ça, de fil en aiguille, ça m'a amené à voir la différence entre des approches plus scientifiques et plus littéraires, hein, parce que le psychanalyse, je rangerais ça plus dans des approches littéraires, finalement. Et c'est comme ça que j'ai découvert aussi le Z, tout à fait par hasard, pour la petite anecdote, en tombant sur une vidéo d'une conférence où ils avaient invité Jacques Van Rigard, qu'on voit souvent maintenant à Sceptics in the Pub, et qui avait été invité par EZ à Grenoble, je pense, c'était en 2007, je pense.
À la fac de pharmacie.
Voilà, et c'est comme ça que moi j'ai découvert EZ tout à fait par hasard, et puis de fil en aiguille, j'ai fréquenté leur forum, puis j'ai rencontré Florent Martin, et puis c'est comme ça que je suis arrivé chez eux, et puis maintenant sur le groupe Facebook, où je suis fort actif dans l'administration de toute la structure qu'il y a derrière. Et puis voilà, et sinon, moi ce qui m'intéresse plus dans le scepticisme, c'est justement ces sujets plus liés au paranormal, au surnaturel, les fantômes, la cryptozoologie. Et bah, pour la simple raison que je trouvais ça fun en fait. Voilà, moi ça me fait marrer de lire ou d'entendre des podcasts qui parlent des Warren, de leurs exorcismes, la démonologie. Voilà, je pense que c'est aussi lié à des intérêts plus généraux, hein, le fait que j'aime bien le fantastique, les jeux vidéo, les jeux de rôle, des trucs comme ça. Et voilà, puis c'est comme ça que ça s'est fait petit à petit. Et après, c'est en accumulant un peu des connaissances dans différents sujets. Bon, l'avantage à ce que je fais au niveau de la zététique avec le groupe, c'est que comme je suis plus dans l'administration, un peu derrière, de toute l'équipe de modération, et puis j'interviens aussi dans des sujets, mais je vois un peu tout passer, quoi. Donc je suis un peu spécialiste de rien du tout, mais en même temps je peux voir un peu tout et m'intéresser un peu tous les sujets, et c'est ça qui m'intéresse le plus, ça permet d'apprendre plein de choses, et voilà. Bon, après j'ai des sujets un peu de prédilection, parce que je fais de la thérapie, de l'hypnose, donc voilà, je m'intéresse plus aux aspects scientifiques de l'hypnose, de la thérapie, mais voilà, moi ce qui m'intéresse c'était vraiment ça, et donc comme tu dis, il y a plein de choses dans lesquelles on se rend compte au fur et à mesure du temps qu'on a des biais, qu'on se trompe, qu'on n'avait pas réfléchi, et c'est ça aussi qui est chouette, c'est ça qui me plaît vraiment dans la zététique, c'est d'évoluer à ce niveau-là. Mais après c'est vrai que tous les sujets genre OGM, nucléaire, des sujets comme ça plus... Il y a des aspects qui sont très politiques, très idéologiques. C'est des trucs qui m'intéressent moins, quoi. Pas parce que je trouve que c'est pas éthique, mais parce que ça me fait pas rire, quoi. Je veux dire, c'est pas comme quand je vois, j'écoute un podcast sur les Warren qui font un exorcisme, ça me fait marrer, quoi. Je trouve ça cool et j'aime bien les aspects scientifiques derrière, mais voilà, c'est plusieurs intérêts qui se mélangent finalement, qui sont moins dans les sujets plus politiques. Et j'en profite pour rebondir aussi sur une petite chose de tout à l'heure, c'est que je trouve une des difficultés qu'on rencontre quand on essaye de faire de l'esprit critique ou de la zététique avec les gens, bah c'est que dès que les sujets ne sont pas très cadenassés sur des faits objectifs, très clairs, très expérimentaux, bah très vite on a beaucoup plus de biais, de subjectivité, et ça devient souvent difficile quand on n'est pas en petit groupe, quoi. Donc si tu lances un sujet sur un groupe Facebook, sur un forum, sur le féminisme, c'est la folie, quoi. Vraiment, je te jure, c'est ingérable. Si tu veux garder le truc clair avec des bons arguments ou pas les gens qui parlent dans tous les sens, ça demande un travail de dingue. Bon, d'ailleurs, on a une quinzaine de modérateurs qui bossent là-dessus pour tenir le groupe.
Je pense pas non plus que Facebook soit le lieu pour ce genre de choses.
Non, c'est juste ça, quoi. Facebook n'est pas non plus un bon lieu pour ce genre de choses.
C'est pas conçu.
Après, comme tout le monde est sur Facebook, voilà, on est obligé un peu de suivre le courant. Voilà, ça c'est un peu plus mon parcours à moi, globalement, quoi.
Ouais. Moi, brièvement, c'était, parce que c'est plus connu, je pense, des auditeurs, mais je pense que j'étais aussi un fan de jeux de rôle dans ma jeunesse, et puis d'ésotérisme. J'ai eu ma grande phase d'ésotérisme à l'adolescence. J'ai lu l'ésotérisme de Pierre Harifa, qui était un gros bouquin pour moi. C'était ma bible quand j'avais 17 ans. Je me suis retrouvé à l'UNIF, et puis il y a eu une série TV qui s'appelle X-Files, qui m'a présenté un peu... ce qu'on appelle les tenants. Et il y avait une sceptique dans la série, hein, Dana Scully. Je crois que c'est la première fois que j'ai entendu le mot sceptique dans ma vie. Je me disais, c'est quoi ce machin-là? Et j'ai décidé de faire. Oui, j'étais complètement fou et à côté de mes pompes. Et j'ai dit, je vais faire un mémoire sur les ovnis. Donc j'ai trouvé un promoteur qui était encore plus givré que moi pour accepter un sujet pareil. Et alors j'ai travaillé sur le sujet. Et puis j'étais pas sceptique, hein, à l'époque. Hein, mais je lisais la littérature, je travaillais sérieusement sur le bazar, et puis je lisais tous les ufologues, et je me disais, mais ils racontent n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, pour moi, les ufologues, souvent, je les lis, et c'est complètement transparent que c'est du n'importe quoi. Je veux dire, on voit bien que leur argumentation, elle échoue à utiliser, enfin, c'est assez flagrant, mais faut pas être d'une certaine façon, pour moi, il faut pas être sceptique pour s'en rendre compte, c'est tellement transparent. Et donc, j'ai rencontré Auguste Meyssen, qui est un prof de physique à l'UCL, qui était un gros tenant de la vague belge. Moi, j'ai toujours tendance à dire la vague belge, c'est lui. il m'est rentré dedans, il a fait, enfin moi j'étais harcelé par lui parce qu'à cause de mon mémoire, il voulait que j'écrive que les ovnis existent dans mon mémoire, etc. Puis il a essayé de censurer mon mémoire. Et donc j'étais un peu dans cette situation-là et je suis tombé sur la bande du CNEU, hein, comité nord-est du groupe ufologique, en premier Jacques Corneau, enfin c'est tous les gens qui gravitent autour de ça et qui ont commencé à me parler d'ufologie, à tenir des arguments qui me tenaient beaucoup plus, qui me semblaient beaucoup plus raisonnables. Et donc moi j'ai vraiment découvert le scepticisme par l'ufologie, hein, bizarrement. Voilà. Et c'est ce qui explique certainement mon... Voilà, donc c'était des gens plus expérimentés qui m'ont dit, ben non, des gens qui critiquent les ufologues, ça existe depuis longtemps, ils m'ont donné des noms, ils m'ont envoyé des photocopies par la poste parce que c'était au millénaire précédent, ouais. On n'avait pas encore Internet. On disait, écoute, lis ce gars-là, tu vois, il a dit des choses très bien, Philippe Classe, enfin tous ces gens-là, quoi. Et voilà, et je pense que ça explique un peu mon approche un peu à moi, qui est, en fait, finalement, dans le fond, moi j'ai toujours été intéressé par l'étude scientifique du paranormal. Les ovnis, mais maintenant que je suis en train de terminer ma thèse sur le sujet, ça commence sérieusement à me saouler, mais je veux dire le paranormal en général. Et c'est vrai que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, j'ai souvent tendance à me dire, ouais, je suis pas... Le désintérêt des sujets paranormaux ou de la recherche scientifique sur le paranormal d'une certaine partie, enfin, dans les sceptiques, parfois j'ai tendance même à me dire, je suis un peu entre les deux communautés, je crois. J'ai une partie de moi, j'ai tendance à plus m'identifier, me reconnaître chez certains parapsychologues sérieux, quoi, je dirais. Parce qu'ils s'intéressent aux mêmes choses que moi, ils se posent les mêmes types de questions. Mais je veux dire, j'ai eu un pied dans le scepticisme pendant tellement longtemps que, en fait, j'ai quasiment le double alignement maintenant, mais ce qui surprend beaucoup de gens. Mais il y a des parties du scepticisme chez lesquelles je me reconnais, parce que la pensée critique, le fait de douter de ce qu'on pense sans arrêt soi-même. Et puis de l'autre côté, l'intérêt, les gens qui étudient sérieusement ces sujets-là, les poltergeists, etc. Enfin, si on veut vraiment lire de la littérature scientifique, il faut aller du côté de la parapsie, psychoanalytique, etc. Des sujets qui sont très méprisés par les autres sceptiques, mais j'ai un peu un pied entre les deux, quoi. C'est un peu... Mais finalement, mon historique que je viens de résumer en deux minutes l'explique assez bien, en fait, parce que c'est de là que je viens, quoi.
Un pont, tu es un pont.
Ouais, en gros, oui. J'espère que je ne suis pas un pont, mais...
Un pont, je rebondis sur ce qu'il dit, parce que justement, ça a permis. Tu parlais de l'Institut Métapsychique il n'y a pas longtemps. On a eu Renaud Evrard qui est venu à Sceptics in the Pub l'année passée nous présenter son dernier livre, avec qui Gozed était en grosse dispute pendant des années, et il est venu chez nous, quoi. Et on a pu. Ça a permis quand même de faire pas mal de débats, parce que même si tout le monde n'était pas d'accord avec toutes ces idées, finalement, ça a été très constructif et les gens ont trouvé ça intéressant. Et donc, je pense que justement, faire des ponts, ça permet aussi comme ça d'inviter des gens ou d'être vraiment plus en contact avec leur discours de première main, quoi, ce qui est aussi chouette.
Sûr, certain.
Et ben voilà, un mot de la fin, Jérémy. ça fait toujours chier quand même.
L'esprit critique ne s'use que si on ne s'en sert pas.
Comme mot de la fin, moi je dirais que je serais content, Richard, que tu sois ici pour avoir fait cette interview. Ça m'a fait très plaisir, en tout cas, de pouvoir te rencontrer en face à face.
Moi de même.
Et je trouve que tout ce que tu as dit, il y avait beaucoup de points intéressants et qui m'ont fait réfléchir aussi. Donc je pense que ça... Enfin, j'espère en tout cas que ça intéressera nos auditeurs.
Jérémy fait de l'hypnose, il a des yeux très bleus. C'est flippant. Il me regarde bizarrement. Ça y est, je dors.
Et confiance. Allez, c'était scepticisme scientifique. Et encore merci à Richard d'être venu.
Oh, mais de rien, les gars.
Je pense que c'est vraiment important. J'ai toujours été partisan du fait que c'est pour ça que j'ai créé Scepticopop, de se rencontrer physiquement, c'est toujours plus chouette. Sûr.
Choper mes collègues du Cortex, ils sont trop bons. Il y a plein de monde.
Et sinon, ça sera la semaine prochaine. J'ai plein de choses qui vont venir. J'ai le deuxième épisode de Paris Scepticopop avec. C'est comment il s'appelle, Brosseau, hein, c'est ça?
Nicolas Brosseau.
Nicolas Brosseau, qui est, je l'ai déjà de stock.
Olivier Brosseau.
C'est pas grave, on aura charmé Olivier Brosseau. Et j'ai aussi un nouvel épisode de Nicolas Gory qui vous attend. Donc encore plein de bonnes choses dans les semaines à venir. Ciao, bonsoir.
Ciao.
Ciao.